France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Éric Delvaux.
Ministre délégué au logement. Le couvre-feu depuis minuit est étendu désormais et ça concerne près des deux tiers des Français. Est-ce que vous sentez venir au gouvernement une généralisation du couvre-feu sur tous les départements à venir ?
Au gouvernement, on se bat pour que l'épidémie ne progresse pas trop vite, que nos hôpitaux ne soient pas submergés par une nouvelle arrivée massive de patients en réanimation. Et pour ça, on prend les mesures qui nous apparaissent nécessaires. Le couvre-feu dans 54 départements, ça permet de lutter contre cette propagation. Et forcément, nous ajusterons nos mesures en fonction de la manière dont l'épidémie progresse. Donc c'est difficile de dire où nous en serons dans 2 à 3 semaines.
Il n'y a pas de précaution prise en ce moment pour préparer la population à, pourquoi pas, un reconfinement possible, disait Emmanuel Macron.
Le message le plus important, c'est dans nos mains, en fait. C'est-à-dire, au-delà du couvre-feu, chacun, dans son quotidien, dans ses relations avec les autres, doit vraiment faire attention à soi et aux autres, y compris dans la vie privée, puisque c'est souvent à l'intérieur de la maison, en fait, que la tension se relâche. Et à partir de là, nous verrons si nous pouvons en rester là, ce qui serait évidemment la meilleure solution.
À l'intérieur de la maison et aussi à l'intérieur des centres d'hébergement d'urgence dont vous avez la charge, avec ce couvre-feu désormais pour les deux tiers des Français. Est-ce que ces centres d'hébergement dans les départements concernés seront en capacité d'accueillir tous les 100 domiciles fixes dès ce soir ?
J'ajouterais, quand on connaît la promiscuité qu'il y a dans les centres d'hébergement d'urgence, qui, évidemment, c'est incompatible avec les gestes barrières.
Alors, moi, c'est ma préoccupation de tous les jours. Comment on fait pour protéger au mieux les personnes les plus fragiles et les personnes qui sont à la rue ? Donc, nous avons, pendant le confinement, ouvert beaucoup, beaucoup de places, plus 30 000 places. Et ces places sont restées ouvertes après le confinement. Néanmoins, on a de nouveau les SAMU sociaux qui reçoivent beaucoup d'appels auxquels ils ne peuvent pas répondre. Donc nous avons pris plusieurs décisions. La première, c'est l'anticipation de ce qu'on appelle le plan hiver. Et ce plan hiver permet chaque année d'ouvrir de nouvelles places. Donc j'ai envoyé une instruction au préfet leur demandant, sans tarder, dès le début du couvre-feu, d'ouvrir autant de places qu'ils le peuvent.
Ce plan hiver
sera plutôt des places, juste pour répondre à Patricia Martin, en hôtel. Parce que les nuitées hôtelières, même si c'est pas non plus la panacée, ça permet au moins de mettre les personnes dans des chambres séparées et pas dans des grands centres type dortoir dans lesquels là on a des problèmes de contamination.
Je disais que ce plan national, ce plan hivernal, il débute en principe le 1er novembre. Il a donc bien été avancé week-end dernier.
Il débute normalement le 1er novembre. Nous l'avons anticipé au 18 octobre. Et puis surtout, d'habitude, il démarre théoriquement le 1er novembre, mais les places s'ouvrent tranquillement aussi en fonction du froid. Là, l'objectif, c'est d'ouvrir massivement, aussi vite que possible, au fur et à mesure qu'on trouve des places.
Mais est-ce que le gouvernement va mettre en place plus de lits d'hébergement d'urgence cet hiver par rapport aux 146 000 lits, je crois, l'an dernier ?
Alors, aujourd'hui, on est à presque 180 000 lits, donc c'est énorme, même si on a encore des besoins non couverts. On travaille à la fois sur l'ouverture de centres et de places supplémentaires, et puis sur la création de places stables. Et ce que nous allons annoncer avec le Premier ministre ce matin, c'est que nous créons des places stables, donc qui ne fermeront plus jamais, notamment pour les femmes qui sortent de maternité avec un nourrisson. Vous vous souvenez peut-être de l'interpellation à la Riboisière il y a quelques années, avec des femmes totalement désemparées qui venaient d'accoucher il y a quelques jours et qui ne savaient pas où aller.
Et qui avaient lancé un SOS parce qu'on les voyait, elles séjournaient dans un coin finalement des urgences de l'hôpital pendant un mois.
C'était indigne pour elles et en plus problématique pour l'hôpital. Depuis, quelques centaines de places ont été ouvertes. Moi, j'ai visité un centre magnifique qui s'appelle Lumière du Nord à Paris, à côté de l'ancien hôpital Fermont-Vidal, géré par une association qui s'appelle Aurore. Là, nous allons ouvrir 1500 places. Et donc, l'engagement, c'est qu'il n'y ait plus de femmes en difficulté sans savoir où aller à la sortie d'une maternité avec leur bébé. On le fera évidemment en partenariat avec le ministère de la Santé.
On ouvre
aussi des places juste pérennes sur les très grands marginaux. Vous savez, les personnes à la rue depuis très longtemps qu'on ne sait pas bien accueillir dans les centres classiques. On a fait un appel à projet à toutes les associations. Il y a une centaine de projets qui nous sont remontés.
Des hébergements adaptés.
Des hébergements vraiment très adaptés, y compris pour accueillir des animaux. Parfois, on en a besoin, puisque souvent, ces hommes ont des chiens, ces hommes ou ces femmes d'ailleurs. Et souvent, ce sont des jeunes. Et donc, ça permet aussi d'accueillir des jeunes en très grande difficulté.
Est-ce que ça fait partie des constructions de logements dits très sociaux, c'est bien cela ?
Alors ça, c'est l'une de mes autres obsessions, si je peux dire. C'est les places d'hébergement, c'est pas une fin en soi. L'hébergement, ce sont des centres ou ce sont des hôtels, ça n'est pas un vrai logement. Donc l'objectif, c'est ce qu'on appelle le logement d'abord, c'est-à-dire finalement, tout le monde doit réussir à avoir accès à un vrai logement.
Parce que le logement, c'est d'abord la porte ouverte à la réinsertion ?
En fait, pour se construire, on a besoin d'accès à la santé, évidemment. On a besoin d'avoir un toit sur la tête, un vrai logement et un parcours professionnel, un emploi. Ce sont vraiment les trois besoins fondamentaux. Si on ne traite pas les trois en même temps, en réalité, l'un est bloquant pour l'autre. Et donc l'objectif, c'est d'avoir plus de logements très sociaux, soit des logements classiques, logements au HLM avec des loyers bas qui peuvent être couverts essentiellement par les aides au logement, soit ce qu'on appelle des pensions de famille, qui sont des logements dans lesquels il y a un peu d'accompagnement. Vous avez à la fois une chambre ou un studio, et puis des activités, une personne qui veille sur vous et qui vous permet de vous retrouver une vie normale dans un logement. Ça, ça marche très bien. Il faut juste qu'on en fasse beaucoup plus. Notre objectif, c'est d'en faire deux fois plus l'année prochaine.
Est-ce qu'il peut y avoir une concurrence entre les migrants et les pauvres ?
D'abord, moi, je suis extrêmement attachée à ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Vous avez une personne à la rue qui a besoin d'être hébergée, en particulier s'il y a des enfants. Il ne s'agit pas de lui demander d'où elle vient, etc., etc. On accueille, on héberge. C'est juste une prise en charge, c'est la dignité humaine. Après, c'est plus facile d'accéder au logement, évidemment, quand on a des droits, quand on est en situation régulière sur le sol français. Et donc après, la question devient l'application de la politique d'immigration. Mais l'accueil dans les centres d'hébergement, il est inconditionnel.
Dans quelle proportion est-ce que la crise sanitaire qui dure depuis 8 mois a-t-elle fait bondir, ou pas d'ailleurs, le nombre de sans-domicile en France ?
Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien compter les personnes à la rue ou qui sont extrêmement mal logées. Et le dernier recensement un peu sérieux, il a été fait par l'INSEE en 2012.
C'est une parenthèse, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas comptabiliser cette catégorie de population ?
Parce que dans les recensements, on ne le regarde pas. En fait, on n'a pas remis depuis presque 10 ans de l'énergie et des moyens pour faire ce recensement. Donc moi, j'ai demandé à ce que l'INSEE refasse le recensement. Je pense aussi que les nuits de la solidarité, vous savez, qui sont les moments dans lesquels, à l'échelle d'une ville, on va à la rencontre des personnes à la rue. Ça pourrait avoir du sens de faire une nuit nationale de la solidarité qui nous permettrait, pour chaque ville qui le souhaite, de pouvoir le même jour compter les personnes, les compter avec la même méthodologie et donc mieux comprendre la situation. Après, dans la hausse de la pauvreté, on a peut-être plus de personnes à la rue, même si c'est difficile à mesurer. En tout cas, on sait qu'on a plus de personnes dans les distributions alimentaires. On sait aussi que les demandes de RSA sont en hausse. Donc nous avons des signaux de difficultés plus grandes d'une partie de la population.
Vous l'avez évoqué à l'instant, une semaine après la journée internationale du refus de la misère, le gouvernement et le Premier ministre va annoncer ce matin une batterie de mesures pour les plus démunis, vous allez l'accompagner. Quelle sera la teneur principale de ces annonces ?
Oui, nous serons avec Jean Castex chez Emmaüs ce matin.
Et vous êtes déjà allé avec Olivier Véran, me semble-t-il, dans un centre ?
Oui, je suis allée la semaine dernière avec Olivier Véran à Paris dans un centre, justement pour des personnes en grande difficulté. Et j'ai aussi visité à Toulouse, il n'y a pas longtemps, une expérience très innovante là-dessus. Donc je suis assez souvent dans les centres et de toute façon je suis en liaison extrêmement régulière avec les associations.
On fait
en ce moment une conférence téléphonique par semaine.
Sur les annonces de ce matin.
Ce matin, donc avec le Premier ministre, trois grands axes. Le soutien aux revenus avec les aides exceptionnelles, vous savez, l'aide exceptionnelle aux bénéficiaires du RSA et aux jeunes. Plus de mesures d'insertion pour continuer à miser sur l'accès à l'emploi. Les entreprises continuent dans certains domaines à embaucher et c'est quand même ce qui permet d'avoir un parcours solide. Et des mesures dans mon domaine d'hébergement autour du plan hiver, de ces places pour les femmes sortant de maternité, pour les grands marginaux, et aussi pour les impayés de loyer. Donc vous voyez, tout un panel de mesures sur ces trois dimensions, soutien aux revenus, insertion, hébergement, logement.
L'accès à l'emploi, j'allais dire rien de nouveau, il y a déjà des aides d'accès à l'emploi pour les plus jeunes, dans un contexte où il n'y a de moins en moins d'emplois aujourd'hui.
Et l'accès à l'emploi, c'est aussi l'accompagnement pour pas laisser les personnes complètement seules avec des minima sociaux qui, de toute façon, ne permettront jamais de vivre totalement dignement. Je prends la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un dispositif pour les jeunes qui les accompagne et qui leur donne un revenu. J'y suis attachée, je l'ai créé quand j'étais déléguée à l'emploi et la formation professionnelle. C'est à la fois un parcours d'insertion et un revenu, puisque les jeunes qui ont la garantie jeunes ont l'équivalent du RSA tous les mois. On a 100 000 jeunes qui en bénéficient, nous allons en avoir plus. Il faut aller chercher chacun des jeunes pour leur permettre un parcours de formation ou d'insertion et un revenu.
Il y a 15 jours d'ailleurs sur ce sujet, Emmanuel Macron avait annoncé un peu vite que seuls les foyers avec enfants éligibles aux APL pouvaient prétendre à une prime de 100 euros par enfant. Et puis le Premier ministre a dû préciser que cette mesure s'étendrait aux jeunes qui touchent les APL, mais aussi aux étudiants boursiers.
Oui, 1,3 million de jeunes, hein, 800 000 étudiants boursiers et à peu près 400 000 à 500 000 jeunes qui touchent les APL et qui ne sont pas étudiants.
Est-ce que c'est le mécontentement des associations qui a fait changer d'avis le gouvernement?
Non, en fait, le président de la République, dans son discours, avait dit les bénéficiaires du RSA, des APL, et ça touchera notamment les jeunes de 18 à 25 ans.
C'est un petit couac de communication.
On a mis deux jours à préciser exactement le périmètre de la mesure, mais on a bien respecté le discours du président.
Mais on connaît aussi les difficultés qu'il y a pour les gens pauvres à faire valoir leurs droits et la réalité, je dirais, du non-accès aux droits. C'est aussi une atteinte à la démocratie, d'une certaine manière.
Oui, je vous rejoins complètement. Nous avons encore à progresser dans l'accompagnement des personnes et dans l'organisation de notre travail social. Moi, je suis très frappée de voir à quel point chaque personne qui passe d'un centre d'hébergement à un autre dans mon domaine refait ses ouvertures de droits avec un nouveau travailleur social attaché à chaque structure et à quel point c'est long. Et il y a une très grande mobilisation des travailleurs sociaux qui sont extrêmement engagés, mais des procédures qui restent très lourdes. Donc je crois que nous pouvons, et nous en avons souvent discuté avec Olivier Véran, progresser sur ce sujet pour que ces ouvertures de droits soient plus faciles. Il y a un côté parcours du combattant et qui est aussi difficile parce qu'il faut à chaque fois raconter son histoire qui est parfois douloureuse. Donc là, je crois que nous pouvons faire des progrès.
À propos de la construction des logements sociaux, le gouvernement va ponctionner près d'1,3 milliard, en fait 1 milliard plus des aides qui ne viendront pas, ça fait 1,3 milliard en tout, dans la trésorerie d'Action Logement. C'est le premier bailleur social de France. Comment ne pas y voir un frein dans les futures constructions de logements sociaux?
Alors, Action Logement, c'est l'organisme qui récolte l'ancien 1% patronal. Donc, Action Logement gère des logements sociaux, mais c'est pas vraiment un bailleur. C'est à la fois un bailleur social et puis c'est aussi un organisme qui aide les salariés.
C'est surtout un magot, comme vous le disiez, payé par les entreprises pour financer la construction de logements sociaux.
Pour financer l'accès au logement des salariés. Après, Action Logement a aujourd'hui 9 milliards d'euros de trésorerie. Et donc, on leur demande une contribution exceptionnelle de 1,3 milliard, qui d'ailleurs viendra abonder les aides au logement. Donc, ça reste, bien sûr, pour soutenir le logement. Et puis, surtout, nous allons retravailler avec eux pour voir comment est-ce que, au-delà de cette opération ponctuelle, on peut avoir un partenariat dans lequel Action Logement soutient bien les grandes politiques publiques d'accès au logement et de construction de logements.
Mais est-ce que ça
les bailleurs
ne va pas
sociaux
freiner...
se sont engagés toujours à atteindre 110 000 logements sociaux cette année, d'agrément, c'est-à-dire de nouveaux logements sociaux.
Ça ne sera pas tenu,
ça sera très difficile à atteindre, mais pas pour des raisons de financement.
Pourquoi ?
C'est pas l'argent qui bloque. Bah, c'est difficile à atteindre parce que pour faire des logements sociaux, il faut un terrain et un permis de construire, que c'est pas toujours facile de trouver du terrain aujourd'hui et que les permis de construire, tout s'est arrêté pendant 4 mois. Et ça n'est pas une accusation des mairies, puisque tout le monde a été confiné, donc les services ne pouvaient pas instruire de façon dématérialisée. Après, il y a forcément une forme d'attentisme pendant la période électorale, c'est normal, et au lieu de durer 2 semaines, elle a duré 4 mois entre les 2 tours des élections municipales. Et donc ça a fait une forme de trou d'air sur les logements sociaux, comme sur les logements classiques, d'ailleurs les logements neufs. Et moi, maintenant, mon combat, c'est de remobiliser tous les acteurs et les élus et les promoteurs, etc., pour que ce trou d'air soit juste une parenthèse et qu'on relance la construction neuve là où on en a besoin.
À la faveur de cette crise sanitaire, économique et sociale, on a aussi appris à travailler chez nous. Est-ce que votre gouvernement, qui appelle à favoriser le télétravail, est-ce que vous réfléchissez à votre ministère une réflexion sur ces nouveaux modes d'habitation et de travail en même temps ?
Oui, je pense que quand on aménage un nouveau quartier maintenant, il faut arrêter de penser que c'est soit un quartier de logement, soit un quartier de bureau, soit un quartier commercial, qu'il faut forcément mélanger et que quand on mélange, il faut aussi imaginer des endroits où on travaillera en télétravail, pas forcément chez soi, mais à proximité de chez soi, ce qu'on appelle des tiers-lieux, des lieux de coworking. Mmh. Moi, je suis convaincue que, notamment dans les grandes régions type région parisienne, on n'ira pas forcément tous les jours au bureau pour les gens qui ont un travail de bureau et que quand on ne va pas au bureau, c'est pas forcément chez soi, mais ça peut être en bas de chez soi, en proximité avec une nouvelle solidarité locale, une nouvelle convivialité locale de personnes qui télétravaillent toutes à côté de chez elles, et que pour ça, il faut des lieux dédiés.
Un mot sur les loyers encadrés contre l'envolée des loyers dans les villes. Une expérimentation d'encadrement des loyers a été lancée pour 5 ans. Quel bilan en tirez-vous pour l'instant ?
Alors malheureusement, c'est trop tôt pour faire des bilans. On commence à avoir quelques chiffres sur l'expérimentation parisienne qui montre que dans les annonces immobilières, environ la moitié des annonces respectent les règles. Donc vous voyez, il y a encore du travail à faire. Donc c'est probablement pas assez connu et probablement qu'il faut retravailler sur les sanctions.
Ce sont les maires qui doivent en faire la demande, hein. C'est ça le principe.
Alors, en fait, pour que les villes mettent en place l'encadrement des loyers, il faut qu'elles le demandent. Pour l'instant, Paris l'a mis en place, Lille aussi, et les villes ont jusqu'au 23 novembre pour postuler. Et on sait qu'un certain nombre sont en train de faire un dossier. Je pense à Lyon, je pense à des ensembles dans l'Est parisien, par exemple, ou Grenoble. Après, l'expérimentation elle-même, c'est un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais je trouve ça plutôt encourageant.
Vous évoquiez quel type de sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces encadrements de loyer ?
Pour l'instant, il faut interpeller son propriétaire et potentiellement après la justice. Donc c'est un peu lourd, il faut réfléchir à si on peut faire autrement.
Et pour les impayés de loyer, vous en parliez déjà tout à l'heure, est-ce qu'on est revenu à peu près à la normale aujourd'hui ?
On n'a pas de signaux très précis sur le sujet. Les bailleurs sociaux disent que dans certains cas, ils ont des locataires qui sont un peu en difficulté, mais ils les traitent. Et puis Action Logement, justement, a mis en place une aide aux impayés de loyer pour des salariés qui auraient des difficultés. Ça aussi, c'est quelque chose à développer. Et j'ai demandé à un parlementaire en mission, Nicolas Demoulin, qui est député de l'Hérault, de me faire des propositions d'ici le mois de décembre sur une amélioration, une vraie politique de prévention des impayés de loyer.
Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement, vous confirmez que vous souhaitez être candidate au régional de mars prochain dans le Val-de-Marne ?
Oui, moi je souhaite m'engager encore plus fortement politiquement en me présentant aux élections. Donc je souhaite, évidemment rien n'est décidé pour l'instant, conduire la campagne des régionales dans le Val-de-Marne.
Sous quelle couleur ?
La République en marche et Territoire de Progrès d'ailleurs, puisque je suis adhérente de Territoire de Progrès qui est la sensibilité social-démocrate de La République en marche. Là, dans la crise que nous vivons, non seulement la crise sanitaire, mais la crise politique et républicaine suite à cet assassinat, je pense que c'est vraiment le moment de porter ces valeurs. Moi, mes valeurs, c'est vraiment le respect de la laïcité, des valeurs républicaines et une mobilisation générale face à ce délitement et à tous ces accommodements. Donc je pense que c'est vraiment un moment où il faut s'engager politiquement.
Comment, à une place de région, souhaiteriez-vous entendre les messages aujourd'hui qui font suite à cette décapitation ?
En fait, je pense qu'il y a deux messages qui sont très importants. Le premier, c'est on est tous concernés, donc on a tous besoin de réagir. L'appel à la haine jusqu'à la violence la plus absolue, ça commence aussi par le fait de ne pas réagir quand on dit « Mila, elle a peut-être exagéré », le fait de ne pas réagir quand on dit « les caricatures, ça aurait peut-être été plus simple de ne pas les publier ». Ça, je crois qu'il faut qu'on soit, nous, tous extrêmement attentifs. Nous sommes tous les gardiens des valeurs républicaines et de la laïcité. Et après, tout ça dans un état de droit, parce que c'est aussi l'honneur de la République d'utiliser les armes de l'état de droit.
Vous faisiez référence à Mila, il faut dire que c'est cette jeune fille qui a été mise à l'abri.
Cette jeune fille qui a été lynchée sur les réseaux sociaux et qui a subi des menaces physiques et qui a dû être mise à l'abri, changer de lieu d'études, simplement parce qu'elle avait exercé sa liberté d'expression.
Merci beaucoup Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement. Merci d'être venu ce matin sur France Inter. Il est 9h20 sur Inter.
Merci.